voilà, ça change beaucoup de choses aussi pour d'autres métiers. Vous, en tant que journaliste, Wikipédia a révolutionné également votre travail de journaliste. Ça change beaucoup en termes de pédagogie, c'est vrai. Maintenant, si on prend effectivement l'exemple, par exemple, d'une élocution qui est demandée à un étudiant ou à un élève du secondaire, finalement, c'est la démarche pédagogique qui sous-tend cette élocution, est-elle intéressante ou pas? Si on peut, en fait, simplement faire un copier-coller d'une encyclopédie, qu'elle s'appelle Universalis Britannica ou Wikipédia, quel est l'apport réellement pédagogique de cette demande? Bon. Ensuite, il faut réfléchir.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire, vous allez me présenter une élocution sur le rugby.
Bon, on peut le faire, mais
ça ne suffit plus.
Ça suffit plus simplement parce que effectivement, on en parlait justement pendant la chanson. Si on demande ça à un étudiant et que cet étudiant copie-colle la page du rugby, pourquoi lui dire que c'est mauvais si la page est considérée comme de qualité? C'est un peu compliqué. Bon, ce qui est intéressant, en revanche, c'est de réfléchir à la nature des sources. Qu'est-ce qu'en fait est Wikipédia? Et c'est ce qu'on appelle une source tertiaire, c'est-à-dire une compilation de sources déjà interprétées, d'informations déjà interprétées et qui donc sont passées par déjà des processus éditoriaux. Et c'est en cela que Wikipédia tire sa légitimité. Mais ce n'est pas plus qu'une compilation de sources déjà interprétées. Par conséquent, tout travail académique devrait se passer de Wikipédia ou en tout cas l'utiliser comme une porte d'entrée, mais devrait aller chercher dans les sources secondaires directement pour reconstruire de la nouvelle connaissance.
Alors la connaissance, dans l'encyclopédie Wikipédia, bien évidemment, on en a la somme, mais tout est question de qualité, bien sûr, dans les encyclopédies. On a cité des grandes encyclopédies historiques, Britannica, Universalis, etc., etc. Comment le travail, j'allais dire qualitatif de Wikipédia s'est organisé? Parce que quantitatif, on peut comprendre que quantité de personnes sèment quantité de graines qui sont autant d'articles. Mais la qualité, c'est très différent. Comment est-ce que Wikipédia a organisé cela?
C'est une bonne question.
C'est les contributeurs qui ont organisé ça tout seuls? J'ai des doutes.
Alors,
parce qu'on va souvent à la facilité.
Tous les
quand même.
Contributeurs ont tout organisé tout seuls. Il n'y a pas de chef éditorial. Il faut bien comprendre ça. C'est une des singularités de Wikipédia. Il n'y a personne qui décide. C'est tout le monde qui décide. Il n'y a personne qui est payé quelque part à la fondation Wikimedia pour dire que tel article est prioritaire sur tel autre et qu'il faut développer celui-là, etc. Tout le monde est bénévole et il n'y a pas de comité éditorial. Déjà, une fois qu'on a compris ça, on fait un pas en avant parce que ça permet un peu mieux de comprendre comment Wikipédia se construit. La qualité, d'abord, elle a bien évolué au fil du temps.
Énormément.
Parce que Wikipédia a très fort réagi aux critiques qui lui étaient adressées. Et donc, elle a augmenté la rigueur de ses règles. Elle a établi des règles de plus en plus strictes, au point même qu'elle dépasse en exigence certaines publications scientifiques. Dans la façon de citer les sources, etc. Un scientifique qui publie une thèse quelque part n'est pas tenu de citer de façon aussi précise et de façon aussi systématique toutes les affirmations qu'il va énoncer dans sa thèse. Sur Wikipédia, pour bien faire, dans l'idéal, chaque fait, chaque énoncé doit être sourcé précisément, quasiment à la page près, pour bien faire au paragraphe près dans tel ouvrage, tel article, telle revue. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des contributeurs passionnés sur certains sujets qui se mettent à travailler sur un article spécifique ou sur une série d'articles spécifiques. Par exemple, il y a une contributrice extrêmement active sur Wikipédia qui contribue sur des articles sur les chevaux et qui développe des articles extrêmement pointus, extrêmement précis sur toute une série de races de chevaux. Ça, c'est
On est dans la spécialisation, du coup.
Voilà, là, on est davantage dans la spécialisation. Ceci dit, il y a des contributeurs qui sont pas spécialement spécialisés dans un sujet et qui améliorent des articles qualitativement. Sur plusieurs thèmes.
Emmanuel, en quelques secondes.
Oui, simplement pour dire qu'on a l'habitude de décrire Wikipédia, de la définir comme l'encyclopédie des amateurs. En fait, moi qui ai rencontré aussi pas mal de Wikipédiens lors de mon travail doctoral, on se rend compte que ces amateurs, tous les amateurs que j'ai rencontrés étaient bac plus 10 au minimum. Et le seul qui ne l'était pas, on peut bien le comprendre, il avait 14 ans. Et c'était lui qui gérait les algorithmes de dépouillement des votes dans les procédures de construction de règles sur Wikipédia. Et donc, le terme d'amateur est évidemment... mettre
entre énormes parenthèses. Bon, on va justement parler de ça. Qui crée Wikipédia finalement? Est-ce qu'il y a un profil type de contributeur? On en parle dans quelques instants, toujours avec Antoine Motte, toujours avec Emmanuel Watley, toujours avec Alain Berenbaum.
La première, entrée sans frapper.
On parle toujours de Wikipédia avec nos invités Antoine, Emmanuel et Alain Berenbaum. Mais justement, Emmanuel, vous en avez rencontré beaucoup. Antoine, vous en êtes un. Alain, vous les voyez, vous j'imagine aussi. Est-ce qu'il y a un profil type du contributeur de Wikipédia? Parce qu'il y a des gens, il faut le dire, qui passent des heures tous les jours pour, par pur plaisir, à fabriquer Wikipédia.
Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, c'est presque comme un jeu de rôle ou un jeu multijoueur sur Internet. Alors, il y a plusieurs profils types, sans doute. Des jeunes, Antoine le rappelait tout à l'heure pendant la pause, 23 ans, et aussi des personnes qui sont retraitées et qui trouvent là un bon moyen de s'occuper et de partager leur érudition. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, le contributeur type de Wikipédia, il est homme. Il est blanc, il est occidental et il a les moyens de participer. Le mec est à l'usine pendant toute la journée, il peut difficilement contribuer plusieurs heures sur Wikipédia. Et donc, de ce point de vue, c'est un miroir de notre société. Et là, il y a quelque chose, de mon point de vue, en tout cas, il y a une marge de progression, et quelque chose vers lequel il faut tendre, de ce point de vue.
Ouais. Bien sûr, oui.
Il y a des gros travaux qui sont faits, notamment par la Fondation, pour... augmenter le panel des contributeurs, c'est-à-dire d'abord favoriser l'arrivée des femmes, qui sont très très minoritaires. Alors, c'est difficile de faire des statistiques parce que toutes les contributions sont anonymes, mais on estime entre 15 et 20% le nombre de femmes qui contribuent.
D'accord.
Et puis aussi, s'ouvrir davantage aux pays du Sud, notamment, qui sont très très sous-représentés, à la fois dans les contributeurs et dans les articles aussi. Puisque pour le moment, il est occidental, il est protestant, le contributeur moyen, puisque sur la Wikipédia en anglais, évidemment, il est plutôt avec une culture geek. Donc évidemment, tout cela donne des biais aux articles, et il y a des articles geeks qui sont beaucoup plus développés que des articles.
Évidemment. Donc ça veut dire qu'il a en gros moins de 25 ans ou plus de 60. C'est-à-dire que est-ce que Wikipédia est un et c'est le nouveau potager de la retraite?
Non, alors ça, ce sont des profils types qui ont été établis. Hein. Donc, au début de Wikipédia, en tout cas dans les premières années, le Wikipédien moyen avait 23 ans, était un homme informaticien, etc., etc. Tout ça, c'est beaucoup plus ouvert.
C'est ça. Ouais.
Et notamment, évidemment, a vu l'arrivée de personnes retraitées, d'anciens.